dans la lutte contre l'exclusion et la misère, et avec pour partenaire les personnes qui la vivent au quotidien, le mouvement ATD Quart Monde est avant tout un mouvement des droits de l'homme et de la promotion culturelle. C'est en octobre 2011 que, pour découvrir ce mouvement, nous avons rencontré l'un de ses alliés.
Bonjour, donc je m'appelle Philippe Geoffrey et je suis donc allié ou militant du mouvement ATD Quart Monde depuis un peu plus de 40 ans maintenant. Alors, le mouvement ATD Quart Monde existe lui depuis un peu plus de 50 ans. Il a été créé par un homme, Joseph Rezinski, assez connu comme étant le père Joseph, qui a fondé ce mouvement et qui lui-même était issu du milieu de la grande pauvreté. Il a passé son enfance dans un camp de réfugiés à Angers. Et on ne va pas partir du tout dans un système d'assistanat ou d'essayer de répondre aux besoins des gens par des dons, par le fait que des gens qui possèdent décident de ce dont ils ont besoin, mais bien de ce que eux aspirent à faire et découvrir en fait toutes les richesses qu'ils ont en eux et toutes leurs aspirations et leur capacité à faire de belles choses.
C'est alors que nous avons découvert le soin avec lequel le mouvement ATD Quart Monde opère un choix réel sur les mots qui le définissent, lui et ses acteurs.
Alors déjà le mot ATD Quart Monde. À la base, c'était ATD, ça voulait dire aide à toute détresse, et c'est le terme qu'avaient choisi les familles du bidonville de Noisy-le-Grand, où le mouvement est né, pour leur association. Aide à toute détresse, c'était justement un peu trop perçu comme un mouvement d'aide et d'assistance, alors qu'en fait, finalement, c'était beaucoup un mouvement d'entraide, des familles elles-mêmes dans le camp, ce qui est assez différent. Et puis il y avait autre chose, c'est que dans la fin des années 50 et les années 60, on parlait de sous-prolétariat. Et Joseph Rezinski, c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas supporter. C'est-à-dire, déjà, basiquement, quand on nous décrit, enfin, en tant que catégorie sociale dans la société, on est sous quelque chose. C'était insupportable pour lui. Et donc est venue cette idée de trouver un mot qui soit plus valorisant et qui remonte en fait à la Révolution française, à un moment où il y avait un quatrième ordre qui avait été identifié par un des députés, hein, où il y avait le clergé, la noblesse, le tiers état, et il y avait un quatrième ordre. Et donc de là est venue cette idée de quart monde dans lequel on retrouve vraiment tous les gens qui se reconnaissent comme étant d'un milieu et qui lui donnent un nom positif. Et le quart monde, c'est donc à vocation à rassembler les gens qui s'en identifient et qui vont apporter quelque chose à la société. Voilà, c'est une façon très très dynamique et valorisante en fait de permettre aux gens de se rassembler. Donc ça c'est le mot quart monde. Et puis plus récemment encore, toujours un peu dans la même optique, eh bien, on a changé, non pas le sigle, ATD, mais la signification qu'on met derrière, c'est-à-dire maintenant, c'est agir tous pour la dignité. Et puis, si on prend d'autres termes assez typiques du mouvement ATD Quart Monde, donc les militants du Quart Monde, déjà, sont qualifiés de façon positive, hein, c'est-à-dire qu'ils se reconnaissent en Quart Monde. Et ce que traditionnellement, la plupart des associations appellent des bénévoles, nous, on appelle ça des alliés. C'est-à-dire que ce sont des gens qui font alliance avec les plus pauvres pour lutter contre la misère. Et donc c'est bien un combat contre la misère, parce que c'est ce que disait Joseph Rezinski, la misère ne peut pas se soulager, elle doit se détruire, et donc on la combat. Et on est vraiment ensemble dans un combat pour les droits de l'homme, pour la dignité, pour la reconnaissance de tous et la participation de tous à bâtir la société. Donc on fait alliance avec les gens les plus pauvres qui ont entrepris ce chemin et ce combat. Et puis il y a une troisième composante dans le mouvement, ce sont les volontaires permanents, qui sont des gens qui ont fait le choix, alors de milieux divers, mais qui ont fait le choix à un moment donné de s'engager complètement à vivre avec les familles les plus pauvres, dans des conditions de vie très proches financièrement des leurs, et qui n'ont pas d'autre vocation que d'être avec eux et de leur permettre de se rassembler autour d'eux.
Philippe Geoffrey nous raconte comment il est possible de sensibiliser des enfants de sa voix à la misère qui touche d'autres enfants dans le monde.
Pour faire très court, la misère ne soulage pas ce combat, et tant qu'on n'a pas fini le combat, et ben on le continue. Et la misère existe encore aujourd'hui, donc je crains bien qu'il faille continuer le combat encore pendant quelques années, voire quelques générations. Mais une des premières actions qu'il y a eu, qui est significative en Savoie, même qui a duré pendant un peu plus de 3 ans et demi, et qui vient de s'arrêter là pile cet été, c'était un groupe Tapori. Alors Tapori, c'est un mot indien qui désigne tous les enfants des rues. Et c'est le nom qui a été retenu pour le mouvement des enfants dans le mouvement Intercarmonde. Et donc on a eu un groupe Tapori qui était pas très très loin d'ici, puisqu'on est à Montmélian et que le groupe Tapori était en Combe de Savoie. Donc des enfants qui étaient entre Saint-Pierre d'Albigny et puis Villars-Léger, Chamousset, Chamou, tout ce coin-là. Et donc ces enfants se réunissaient, se sont réunis pendant très très longtemps, 3 ans et demi, quoi, autour de thèmes où ils échangeaient, ils faisaient des échanges, ils écrivaient des mots avec d'autres enfants un peu du monde entier. Donc là, les enfants de Savoie, c'était des gamins qui étaient plutôt de famille moyenne, enfin qui ne vivaient pas spécialement la misère, par contre qui échangeaient des courriers, des idées avec des enfants du monde entier, y compris des enfants de milieux très très pauvres. Et il y a eu plusieurs rassemblements qu'on a eu la chance d'organiser ici en Combe de Savoie, notamment un beau rassemblement qui a eu lieu à Frétrive, où on avait des enfants qui venaient de Suisse, de Haute-Savoie et donc de Savoie. Et les enfants de Haute-Savoie et de Suisse, par contre, pour bon nombre, étaient des enfants ayant une situation, vivant un peu la grande précarité. Et on a pu apprécier à quel point l'amitié des enfants a été possible entre les groupes, et en pulvérisant les frontières et les barrières sociales habituelles, avec une spontanéité. Ce que je vois, c'est pour les enfants qu'on a là, on leur a simplement proposé, on leur a dit que y avait des enfants, des hommes et des femmes d'ailleurs, qui vivaient en situation de grande pauvreté, que c'était finalement pas tolérable, que c'était pas une fatalité, parce que ça, c'est une des convictions du mouvement Intercarmonde, c'est que la misère n'est pas une fatalité, elle est l'œuvre des hommes, et les hommes peuvent la détruire. La pauvreté, c'est autre chose, hein. Mais la misère. La misère, c'est ce stade de la pauvreté où les gens ne sont plus reconnus, où la dignité des gens est bafouée, et où la société ne s'intéresse plus à eux, ne veut plus les entendre, ne veut plus prendre en compte toute leur richesse à eux, et donc les coupe de la participation à la vie communautaire. La misère est indigne, et donc on ne peut pas s'accepter.
Faisons maintenant connaissance avec l'action des alliés à travers quelques exemples.
C'est vraiment dans la confiance et dans la qualité du travail qu'on fait tous ensemble qu'on peut arriver à quelque chose. Et donc le rôle d'un allié, c'est de s'engager aussi, on l'évoquait tout à l'heure, un peu dans une association de tennis de table, dans un orchestre, dans son entreprise, sur son lieu de travail, au sein de sa cellule familiale. De ce point de vue-là, et pour ce qui se passe en Savoie, pour raccorder un petit peu avec la réalité de Savoie, on a eu vraiment des réactions de gens qui découvrent le mouvement et qui pigeaient tout de suite ce que ça pouvait être et ce que ça pouvait donner. Et bon, le 17 octobre, et depuis maintenant 1987, le mouvement Intercarmonde avait organisé un grand rassemblement de 100 000 défenseurs des droits de l'homme et des libertés, pour inaugurer une dalle à la mémoire des victimes de la misère de tous les temps, qui était gravée dans le marbre et inaugurée sur le parvis des droits de l'homme et des libertés, place du Trocadéro à Paris, donc 100 000 personnes rassemblées ce jour-là, et avec la volonté d'en faire une journée mondiale du refus de la misère, donc qui se célèbre tous les ans. Il y a plusieurs initiatives qui m'ont paru très, très révélatrices du rôle d'un allié. En 2007, on a organisé un concert à l'école de musique d'Aix-les-Bains. Alors tout ça, c'est parce qu'on avait une jeune alliée qui avait découvert le mouvement et qui se disait, dans le fond, dans mes activités, quand je vais au conservatoire, quand je vais à l'école de musique, des gens très très pauvres, j'en vois jamais. Et Il faut qu'ils puissent investir ce lieu, qui est en plus un lieu de culture où on peut échanger des belles choses, vivre de bons moments ensemble. Donc, elle s'est mobilisée, elle a été voir plusieurs profs, le directeur de l'école de musique. Chemin faisant, là, il y avait une dame en situation de très grande pauvreté qui habite à l'autre bout de la Savoie, qui avait écrit un texte qui l'avait beaucoup touchée. Et puis, finalement, ce qui serait chouette, c'est si c'était possible que la dame vienne elle-même lire son texte. Ça sera encore mieux. Et dans le fond, si avec toutes les personnes les plus pauvres qu'on connaît, on leur proposait d'écrire des textes et qu'ils viennent les lire ou les chanter, s'il y en a qui veulent chanter. Et donc c'est parti comme ça. Et là, ça a plus seulement été l'école de musique qui a invité les plus pauvres à venir assister à un concert. C'est ensemble, tout le concert s'est construit. Et on a eu des personnes qui sont montées sur scène, dont certains vivaient à la rue, et qui sont venus chanter des textes qu'ils avaient écrits eux, mis en musique avec les jeunes de l'école de musique. Et donc là, il y a eu un véritable échange culturel. Et il y a eu un accueil fantastique. Et donc ça illustre bien pour moi, c'est des moments qui sont très très précieux à vivre, parce qu'on découvre toute cette profondeur d'humanité que les gens les plus pauvres peuvent nous procurer. Et tous les gens qui ont assisté à ce concert, et comme dans bien d'autres manifestations, hein, où on se donne la peine de vivre ensemble un moment beau, et où on mesure tout le gâchis que représente la mise à l'écart des personnes les plus pauvres quand on refuse de les écouter et d'apprendre ce qu'ils ont à nous apporter, et comme leur expérience de vie peut nous permettre d'améliorer la nôtre. C'est des moments vraiment très 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 précieux, quoi. Et qui montrent aussi que c'est possible de vivre tous ensemble, et que c'est possible de refuser la misère, et qu'il est possible de l'éradiquer. Voilà, alors donc ça c'est un exemple, mais pour embrayer sur un autre, a participé ce jour-là une dame qui a été très très marquée, qui s'est engagée à partir de ce concert-là, très fortement avec le mouvement Técarmonde, et qui, elle aussi, a fait le chemin de se dire, dans le fond, qu'est-ce que je sais faire moi. Alors, c'est une dame qui chante très bien, c'est pas un hasard si elle était venue au concert, qui était conteuse, amateur, mais bien, et qui a un très grand rapport avec la culture, avec l'écrit. Et donc, il avait participé à toute l'écriture des chansons, des textes qui ont été lus ou chantés le jour de ce concert. Et il y en avait beaucoup en plus. Je me suis dit, il faut qu'on en fasse profiter, il faut que toutes ces pépites-là puissent profiter à tout le monde, et qu'elles soient mises en valeur et à l'honneur des familles les plus pauvres qui les ont écrites. Et donc, il y a eu l'idée de créer une émission de radio qui est diffusée deux fois par mois, et où elle va enregistrer les personnes qui lisent les textes qu'ils ont écrits, et donc ils sont diffusés et partagés avec tout le monde. Et puis de ça est né un atelier d'écriture qui rassemble les gens de plusieurs milieux, qui partagent leurs écrits, leur passion d'écrire, leur passion des mots, puis qui partagent aussi de bons moments, et qui maintenant sont sur un projet d'écrire ensemble un livre. Et on espère bien d'ailleurs que le livre va pouvoir sortir en 2012 ou en 2013.
Bonjour à chacun de vous en ce printemps clément. Aujourd'hui, je vous invite à écouter plusieurs histoires écrites par les participants à l'atelier d'écriture daté des Carmondes de Chambéry. Les auteurs en sont Isabelle, Jacques et Patrick. Je vous souhaite une bonne écoute et de passer un moment agréable en leur compagnie.
Fou, bon sang, j'en ai poussé des caddies. Dieu sait si j'ai râlé derrière ces caddies. Râlé parce que ce jour-là, je n'avais pas assez d'argent. Moi, d'ailleurs, ce n'est pas toujours derrière un caddie que j'ai râlé. Autrefois, avant que nous venions habiter cette cage d'escalier en HLM, au village, j'allais faire les courses avec un simple panier. J'achetais l'utile pour la cuisine et la vie de tous les jours. Son appétit a grandi avec lui. Et les paniers se sont alourdis, les chariots se sont remplis. Paquets de spaghettis, sachets de riz, boîtes de raviolis et trois tranches de jambon de Parme pour le petit. Souvent nous nous sommes serrés la ceinture pour lui offrir ce dont il rêvait. Souvent je me suis privé du nécessaire parfois. À la troisième fois, son père n'a pas supporté d'aller le chercher au commissariat. Et il m'a laissé seul avec lui. Et chaque semaine, j'ai continué à pousser le caddie. Maintenant qu'ils me l'ont pris, ça me rend malade, ces caddies. le vide de mon caddie. C'est le vide dans lequel je vis. C'est ma solitude, ma seule compagnie.
Comment fournir les bons outils de réflexion aux personnes exclues et en situation de grande précarité pour leur restituer des droits et une implication dans la société?
Alors l'université populaire, c'est un lieu où on prépare à l'avance des thèmes. On va avoir souvent un grand thème sur l'année. Et puis par séance de 2 heures environ tous les mois, on réunit des groupes de gens qui ont préparé ce thème, qui viennent échanger, qui rencontrent un invité spécial. Alors, par exemple, si je prends ce qui se fait actuellement, on approche d'une période d'élection, hein, puisqu'en 2012, il y aura des élections présidentielles. Donc le but du mouvement intégrant, c'est absolument pas de donner des consignes de vote. Mais par contre, de permettre aux gens de bien réfléchir et de voir les enjeux qu'il y a derrière une élection et d'échanger un peu les représentations qu'on en a et de réfléchir ensemble à notre rôle de citoyen. Donc le thème qui a été pris, c'est la citoyenneté, qu'on fait vivre donc sur plusieurs mois. Et là, on travaille par petits groupes, des gens de plusieurs départements, de plusieurs régions, qui se réunissent tous. Alors dans des petits groupes de préparation, de façon idéale, je dirais, il faut 10 personnes, c'est l'idéal. Entre 10 et 15 personnes, c'est l'idéal. Plus c'est embêtant parce que c'est important que vraiment tout le monde puisse prendre la parole, y compris les plus pauvres, et que quand les gens viennent parler la première fois, c'est difficile. Et plus on est nombreux, plus c'est intimidant, moins on a tant de paroles potentielles. Donc à la limite, si on a un groupe qui devait arriver à une vingtaine, il ne faut pas hésiter à le couper en deux, de manière à chaque petit groupe autonome puisse préparer de façon très très bien. Donc chacun prépare le même thème, les mêmes questions, et ensuite, donc en une ou en deux fois, peu importe. Et après, donc il y a un petit groupe de délégués de ce groupe de préparation qui part lors de l'Université populaire régionale vraiment à Lyon pour d'une part faire un petit résumé rapide de ce qui a été dit dans son groupe et puis prendre part à une réflexion et à une discussion plus large avec tous les autres groupes de la région et avec un invité spécialiste du thème qu'on a retenu. Donc là, sur la citoyenneté, la dernière fois, c'était une élue de Lyon qui était venue. Dans d'autres cas, ça peut être, je me rappelle une fois, il y a eu des huissiers, des maîtres d'école, des directeurs d'hôpitaux, etc. Donc les gens se rassemblent à Lyon et on échange. Alors là, vraiment, le principe de l'université populaire, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, l'élu, le spécialiste, soit le toubib, l'artiste, parce qu'on a eu des très belles universités populaires sur la peinture, où c'était d'ailleurs des peintres de Haute-Savoie qui était venu, bien sûr apporte sa connaissance et sa perception du thème, du sujet qui est abordé, mais les gens qui participent à l'université populaire, et donc où on retrouve des gens un peu comme nous sommes nous, c'est-à-dire soit des alliés du mouvement Intégré Quart Monde, soit des personnes qui vivent l'extrême pauvreté, viennent aussi apporter leur regard et leur expérience sur le même thème. Et là, on est vraiment dans un échange où il n'y a pas quelqu'un qui sait et qui apprend à d'autres, mais tout le monde détient sa part de savoir et on est dans un moment où on échange, où on essaie de comprendre les représentations qu'on a les uns et les autres. Et quels sont les enjeux de la citoyenneté, ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde, et même concrètement ne le sont pas. Et là, c'est vraiment important de découvrir ce qui se passe pour les uns et les autres, c'est très très enrichissant. Voilà.
Toutes les actions du mouvement ATD Quart Monde sont présentées sur le site atd-quartmonde.fr. Les coordonnées des cellules régionales sont consultables en ligne. ATD Quart Monde établit de sérieux moyens pour agir auprès de la grande précarité qui touche finalement une grande partie de la population. Merci à Philippe Geoffrey du mouvement ATD Quart Monde de nous avoir fait connaître cette autre façon de venir en aide aux plus démunis. Merci également à Michel Gréaume, allié du mouvement, et RCF Savoie pour les extraits de l'émission Les mots du cœur.